Liberté Santé, Marina Mielzarek.
La polio, on en parle aujourd'hui dans Priorité Santé. Bienvenue à ceux et à celles qui nous rejoignent sur RFI. En notre compagnie, le professeur Alain Yelnik, chef du service de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital Fernand Vidal à Paris. Brigitte Monin, présidente du GLIP, le groupe de liaison et d'information post-polio en France. Son alter ego belge, Michel Dive, président de l'association francophone polio et post-polio en Belgique. Et le docteur Chimiri Mana, conseiller régional Afrique de l'Ouest à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour les maladies évitables par la vaccination. Et nous accueillons dans ce studio à Paris Sacha Grondeau. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste à reggae.fr. C'est un magazine musical qu'on trouve sur le web. Hein. Voilà. Et puis on va écouter avant de vous interviewer, eh bien avec un grand intérêt, un morceau des Reggae Men qu'on a déjà entendu en première partie, d'Israel Vibration, un groupe, je le rappelle pour les auditeurs qui n'étaient pas là en première partie d'émission, dont les chanteurs sont atteints de polio. Et vous les connaissez bien, vous, Sacha Grondeau, puisque vous les avez interviewés à plusieurs reprises. Alors, musique et une petite note d'espoir dans ce thème un peu rude, hein, c'est vrai, aujourd'hui pour un vendredi. Allez, on y va. Vous êtes journaliste à reggae.fr, un magazine musical sur le web dédié au reggae. Vous avez donc interviewé à plusieurs reprises, m'avez-vous dit, les chanteurs, hein, les reggae men d'Israel Vibration. Comment vivent-ils leur maladie? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Se font les chevaliers servants de la cause polio, j'allais dire?
Non, pas vraiment en fait. Lorsqu'on les rencontre, d'ailleurs, le public reggae ne réagit pas forcément en premier lieu à leur maladie. Il faut dire que bon, ils tournent depuis de nombreuses années.
Ouais, mais ils sont quand même sur scène avec des béquilles.
Ouais, tout à fait, mais
c'est pas invisible.
Non, mais leur talent musical a au fil des années effacé leur handicap. Bon, cela dit, quand on les rencontre, il est clair que lorsqu'on leur parle de leur début, leur handicap est important puisque il est la cause de leur rencontre. Ils se sont rencontrés très très jeunes en fait en Jamaïque dans un hôpital où on enseignait, on donnait aux enfants atteints de polio une éducation, on leur apprenait à faire de la couture, on leur apprenait la musique et donc ça a été le prisme à travers lequel ils se sont rencontrés la maladie, à travers lequel ils ont décidé de faire de la musique ensemble et à travers lequel ils ont débuté en fait à composer et à jouer.
C'est intéressant, on en parlait avec le professeur Alain Yelnik là ici en studio pendant le morceau. C'est vrai que c'est un aspect et une manière originale hein, d'aborder cette maladie, mais donc en fait eux n'incarnent pas cette cause, c'est-à-dire que ils ne se disent pas ben nous auprès de notre public jeune ou moins jeune d'ailleurs, on n'aide pas à faire vivre aux malades un peu mieux leur handicap hein, parce que c'est des séquelles la polio.
Non, tout à fait. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le reggae est une musique marginalisée, très peu médiatisée aujourd'hui dans les médias grand public. Et donc, si vous voulez, ils ne nient pas leur état. Hein. Et quand on leur en parle, ils en parlent même abondamment. Ils expliquent un peu ce qui s'est passé, leur expérience. Mais dans la mesure où le reggae n'est pas une musique médiatique, si vous voulez, ils n'ont pas besoin d'être les porte-parole ou les étendards de quoi que ce soit. Il y a d'autres choses qui les caractérisent par ailleurs, qui sont très importantes, comme leur texte, leur foi, leur musique.
Et justement, dans le public, les fans, ce ne sont pas forcément, il n'y a pas forcément des malades de la polio, quelques-uns, vous auriez pu voir en chaise roulante.
Moi, j'en ai déjà vu en chaise roulante. Cela dit, j'en vois régulièrement dans les concerts de reggae. J'ai pas noté une augmentation des statistiques des personnes en chaise roulante par rapport au concert d'Israel Vibration, mais il est clair que les gens, quand ils sortent d'un concert, par rapport à l'énergie du groupe, se disent « Ah, quand même, c'est assez incroyable l'énergie qu'ils dégagent. » Bon, c'est sûr que d'avoir des béquilles sur scène ne permet pas d'avoir une prestance scénique très, 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 très importante, mais il est clair néanmoins qu'ils assurent un show d'1h30, 2h, sans problème, tous les soirs, tous les deux soirs, et ça depuis une vingtaine d'années.
Alors, ma deuxième question là, s'adresse à tous les invités, y compris ceux qui sont au téléphone et qui nous entendent. Selon vous, là, il faut des figures pour appeler aux dons en pleine crise financière. On pense à la cause du sida avec Bono, le chanteur de U2, ou Bob Geldof. C'est important, même Sacha Gondreau d'abord, et puis ensuite on fera un petit tour de table avec nos invités.
Bon, moi, je suis persuadé qu'il est évident que dans une société médiatique, avoir des icônes pour représenter une maladie et permettre de faire le pont entre des gens qui auraient envie de donner et eux-mêmes qui pourraient rassembler et générer sur leur image cet afflux de dons, c'est tout à fait souhaitable. Encore faut-il l'organiser. Bon, moi, pour les Israel Vibration, je connais pas d'autres artistes atteints de polio, mais c'est vrai que...
Neil Young, le Canadien, voilà. Mais alors, je pense que c'était une maladie qui était quasi invisible, parce que sur scène, il était...
D'accord. Mais je crois, pour finir, que en Jamaïque et aux États-Unis, ils ont un petit peu fait des choses, les Israel Vibration. Cela dit, ils seraient pas du tout réticents à organiser, à faire des choses pour récolter des dons.
Et
je crois.
À incarner la cause.
Ouais, non, je crois vraiment pas que c'est ça.
On va aller en Belgique très vite et à Lille avec Michel Dive ou Brigitte Monin. Selon vous, c'est vrai qu'on connaît pas de chanteurs. Je sais que le chanteur Neil Young était atteint. Il y a aussi le président Roosevelt, mais lui.
Il chantait pas très bien.
Mais il chantait. C'est un peu tard. Et l'empereur romain Claudius aussi, pour votre gouverne. Oui. Plus sérieusement, Michel Dive, Brigitte Monin, ce serait important là d'avoir quand même quelqu'un, une figure, une icône, comme dirait Sacha Gondreau.
Gondo.
Oui, je pense, parce qu'il pourrait aider pour récolter des fonds, déjà pour la vaccination, et alors aussi pour équiper, je vais dire, les victimes de la polio, notamment en Afrique, parce que ce que j'ai vu au Cameroun est impensable. Et je suis à la recherche de finances, mais c'est très très difficile. Donc s'il y avait quelqu'un qui puisse porter, je vais dire, l'emblème, le drapeau, ce serait super. Mais je ne connais personnellement pas de chanteur qui puisse le faire actuellement.
Quand vous dites au Cameroun, j'ai vu des choses qui m'ont bouleversée, troublée, oui. Ça veut dire quoi? Parce que...
Bien écoutez, quand je suis partie, je me suis dit, je vais faire des photos pour témoigner. Pour expliquer ce que j'ai vu, et par respect pour les personnes, je n'ai pas su faire ces photos, parce que vers moi sont venus des gens qui rampèrent même le sol, et je me suis dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas filmer, et je l'ai vu plusieurs fois. Je repars la semaine prochaine, je sais que je vais être confrontée de nouveau à ce problème. J'ai vu des amis camerounais polio, avec des chaises roulantes cassées, trois roues au lieu de quatre, ils sont tombés, c'est effrayant. Ce n'est pas possible.
Brigitte Monin, très vite, à Lille.
Oui, Brigitte Bonin.
Mais c'est pas... Bonin, à
sur ce qui vient d'être dit, je dirais que c'est important qu'effectivement il y ait une icône à un moment donné qui puisse incarner une maladie, parce que dans le public, dans tout ce qu'on entend, c'est toujours oh oui mais la polio ça n'existe plus, c'est une maladie qui en Europe, en Occident est oubliée quelque
tout
part,
tout à fait invisible,
et qui fait en sorte que à la fois les victimes de la polio aujourd'hui dans les pays en voie de développement, aussi bien que les personnes qui sont porteuses de séquelles de polio en Europe, se sentent un petit peu complètement ignorées, oubliées. C'est une maladie dont on ne parle quasiment jamais dans les médias.
Merci.
Donc, c'est vrai que c'est très important.
C'est très important, mais je crois que le message est passé ici, hein, dans Priorité Santé. Merci beaucoup, Brigitte Bonin. Je rectifie, c'est important. Bonin, donc. 01 56 40 18 22. Laissez-nous également vos questions, si vous en avez, sur le site de Priorité Santé, priorité.santé@rfi.fr. On va s'offrir maintenant un aller simple pour Bombay. Ça vous dit ? Ça vous dit, Sacha ?
Oui, oui. Je connais très bien Bombay.
Bon, bonjour Moussi Nenaimi.
Bonjour.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI en Inde, un pays où sévit encore la polio. Et vous êtes allé, pas plus tard qu'hier, hein, d'ailleurs, dans un centre de santé d'un quartier de Bombay. Alors, racontez-nous ça.
Oui, alors j'ai rencontré le docteur Faisal Nebi, qui est un pédiatre à l'hôpital Jaslok. C'est un des grands centres de soins de Bombay. Mmh. Mais vous savez, Marina, ici, il y a de nombreux médecins spécialistes de la question, car c'est une maladie qui touche encore plusieurs enfants ici en Inde. Et à Bombay, on traite surtout les patients déjà touchés par la polio. Les opérations orthopédiques sont donc fréquentes. Et la prévention, en fait, fonctionne plutôt bien dans les zones urbaines, ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions de l'Inde. C'est ce que justement m'a dit le docteur Faisal Nebi, qui lui, donc, je le rappelle, est pédiatre à Bombay. On l'écoute.
Il y a trois ans de cela, nous contrôlions relativement bien les cas de polio. Mais au cours de ces dernières années, nous avons de plus en plus d'incidents dans certains des États de l'Inde, comme l'Uttar Pradesh ou le Bihar. Si vous regardez les chiffres, en 2006, dans l'Uttar Pradesh, il y avait environ 315 cas, et en juillet 2007, 548. Pour l'état du Bihar, nous sommes passés de 61 cas de polio à 396 infections. C'est pour cette raison que le plan sanitaire a été amélioré dans certains états, afin de juguler cette nouvelle croissance des incidents. On a mis en place cette campagne d'éradication de la polio en Inde il y a plusieurs années déjà, mais certains états ne l'ont pas très bien appliquée, ni même terminée. Et c'est pour cela que ce programme est un échec.
Okay, because of that, we had a failure of eradication program.
Moussine et Naïmi, vous m'avez dit hier, quand on a reparlé de ce reportage, que vous êtes allé en fait dans ce quartier où vous avez rencontré ce pédiatre, qui était plus défavorisé en tout cas que les autres. Il y a une corrélation entre pauvreté et polio?
Alors écoutez, le docteur Nabi fait référence à deux états de la Confédération indienne. Il parle de l'Uttar Pradesh et du Bihar, qui sont en quelque sorte les seules poches de résistance au virus de la polio.
Oui, parce que l'Inde est un immense pays.
Il y a encore de nombreux enfants qui sont touchés par la maladie dans ces régions-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Uttar Pradesh et le Bihar sont deux régions voisines, très peuplées du nord de l'Inde, à la frontière avec le Népal. Et ces états ruraux, sans doute les plus pauvres d'Inde, on imagine bien qu'il y a des conditions d'hygiène désastreuse, et surtout dans les zones reculées. Donc effectivement, Marina, il y a une corrélation entre pauvreté, hygiène et virus de la polio. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons qui explique que le virus est encore présent en Inde, malgré les vagues d'éradication de la polio. D'ailleurs, le docteur Nabi me disait aussi que lorsqu'un cas est décelé, les autorités sanitaires décrètent aussitôt un périmètre de 5 km, une zone de quarantaine, si vous voulez, le temps de vacciner tous les enfants pour évidemment juguler la propagation du virus.
Alors le cas indien est intéressant parce qu'il y a là-bas une nouvelle façon d'aborder cette maladie chez les patients, hein, et au sein de la population générale. On va réécouter le docteur Faisal Nabi.
Comme les cas sont en pleine croissance, nous pensons en lancer une campagne de vaccination. Les injections orales procurent une immunité dans l'estomac et dans les viscères. Et quand vous le prenez en injection, vous développez l'immunité dans le sang. En fait, le virus de la polio passe par l'estomac et les intestins avant de passer dans le sang. Si vous combinez la prise orale et la piqûre, alors le nombre de cas de polio baissera. Et c'est pour cela que le comité scientifique en Inde veut procurer des injections à tous les enfants. Et une fois la polio éradiquée, comme c'est le cas dans les pays développés, alors il ne faudra plus pratiquer que des vaccins.
Merci infiniment, Moussine et Naïmi, et bonne fin de journée à Bombay.
Au revoir.
Merci, au revoir. Alors nous allons poursuivre ce tour de map monde hein, en survolant les continents et en partant à présent au Pakistan avec un aspect peu un peu délicat, j'allais dire, en matière médicale, mais auquel vous avez à être confrontés, vous les médecins, professeur Alain Yannick, vous allez nous le dire, le lien entre interdits ou préceptes religieux et les soins apportés à vos patients. On écoute ce court reportage diffusé sur l'antenne de RFI il y a 2 ans et puis vous réagirez.
Le Mollah est en train de parler de l'islam. Il faut suivre l'islam à la lettre. Entouré d'une garde prétorienne, le Mollah Fazaloula s'explique sur le choix de ses émissions et surtout pourquoi il condamne l'actuelle campagne de vaccination anti-polio dans la région.
J'utilise la radio pour transmettre le vrai message de l'islam et toucher le plus de gens possible. Un message qui dit pas de prévention, donc pas de vaccination. C'est interdit. On peut certes se soigner si on est malade, mais on ne doit rien faire avant. C'est pour ça que je condamne la vaccination contre la polio.
Son message est si bien passé qu'un médecin a été assassiné en rentrant chez lui. Il participait à cette campagne dans son bureau du centre-ville. Radio Fazaloula a devant elle encore de belles journées pour appeler au djihad et lutter contre les vaccinations.
Voilà, c'était donc un reportage signé Éric de la Varenne. Il y a beaucoup de préjugés. Je vous lis juste une petite chose là qui nous provient du Tchad avec un coordinateur de vaccination au ministère de la Santé qui nous met sur le message internet. Eh bien, parfois les gens au Tchad pensent que le vaccin contre la polio a été inventé par les blancs pour stériliser les enfants. Ils pensent qu'il a été conçu pour un groupe de personne en particulier, et puis lui, ça met tout son travail en question. Professeur Yelnik, vous avez déjà été confronté, vous, sur le terrain en Afrique, vous avez travaillé en Afrique.
Oui, mais mon expérience africaine ne vaut pas grand-chose. J'y étais il y a 30 ans au Cameroun, ouais. Pendant un an, oui, j'étais à Yagoua, là. J'avais beaucoup travaillé sur la bilharziose, les maladies transmissibles.
Mais ça n'empêche pas, les préjugés religieux étaient là, et les croyances.
Bien sûr, j'ai vu ça, on le voit en métropole, un peu moins, de manière un peu moins marquée, heureusement, mais cette préoccupation, c'est un vrai problème, puisque en effet la mise en cause des vaccinations, soit pour des motifs religieux, soit pour des motifs pseudo-écologiques, et Dieu sait que j'aime bien l'écologie, soit pour simplement des motifs de crainte, de peur, de liberté, on voit des courants qui se développent dans le monde entier de résistance, de lutte contre les campagnes de vaccination, et c'est extrêmement grave, puisque les vaccinations ont quand même montré que la variole a pu disparaître, que la polio devrait disparaître. L'OMS avait espéré l'éradication en l'an 2000. Il y a les guerres, hein, on n'a pas cité dans les oui. raisons de manque de vaccination. Ça a été beaucoup, malheureusement, les guerres aussi. Hein. Et en effet, je ne peux que m'inquiéter beaucoup, et je pense qu'il faut expliquer, beaucoup expliquer. Les gens ont toujours peur, bien sûr, quand on leur fait des piqûres, hein, peut-être plus encore que quand ils absorbent par la bouche. Mais enfin, bien sûr, il y a toujours un côté magique derrière, hein, dont les gens peuvent se méfier, mais il faut expliquer à quel point c'est bénéfique.
Docteur Chimirimana, vous qui êtes coordinateur au sein de l'OMS en Afrique, vous avez été confronté à ce genre de problème religieux, enfin d'approche religieuse ou de préceptes?
Oui, il y a eu effectivement ce genre de préjugés dans pas mal de pays. Vous vous souviendrez par exemple ce qui avait été la cause de la suspension des vaccinations dans les États du Nord du Nigeria. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces problèmes ne sont pas du tout des vrais problèmes. Le vrai problème aujourd'hui pour l'Afrique, pour en finir avec la polio, c'est vraiment d'atteindre les enfants. Et je voulais vraiment justement en profiter pour dire que nous avons vraiment une opportunité à ne pas rater. Il y a 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui vont bientôt organiser des journées nationales de vaccination synchronisées ce mois et le mois prochain, et qui va toucher donc les 7 pays autour du Nigeria et avec 21 États du nord du Nigeria. Je pense que c'est l'occasion à ne pas rater parce que nous avons maintenant un vaccin qui marche très bien, qui est très efficace, et nous avons un engagement politique au plus haut niveau, surtout au Nigeria pour le moment, parce que c'est le seul pays endémique que nous avons. Oui. Et nous avons les ressources qu'il faut grâce à la contribution des États, mais aussi aux partenaires. Vraiment, je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour en finir avec la polio en Afrique. Et je pense que le rendez-vous qui nous a été donné d'interrompre la transmission du poliovirus sauvage d'ici la fin de l'année, nous pouvons l'atteindre si tout le monde s'y met.
Bon.
C'est pourquoi je lance un appel à toutes les mamans, tous les parents, les médias, les représentants du peuple, les dirigeants politiques, pour que vraiment ils s'impliquent individuellement et collectivement pour mobiliser les communautés dans la recherche justement de ces populations de déficit d'accès.
Bon, mais en tout cas, ça fait du bien de vous entendre parce que c'est une note d'optimisme en tout cas, docteur. Brigitte Bonin, Michel Di, je vais vous demander de répondre si vous le pouvez à Mamadou qui nous appelle de Centrafrique. Mamadou? Mmh. Mamadou, bonjour.
Oui, bonjour.
Posez votre bonjour, question madame. Alors. Bonjour, nous sommes là avec les grands spécialistes pour nous, pour vous répondre.
Merci, bonjour à vos invités. J'ai des questions. Une question que j'ai suivie à RFI, c'est-à-dire le polio attaque souvent juste au niveau du cœur. Ça développe, le virus se développe jusqu'à aller bloquer le système musculaire du cœur. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Professeur,
parce que je m'inquiète, je suis aussi atteint du polio.
Merci beaucoup Mamadou. Professeur, troubles cardiaques.
Mamadou, là je peux vous rassurer, le cœur c'est absolument exceptionnel. Mais les muscles respiratoires, oui. Mais une fois qu'on a eu la poliomyélite, on ne risque absolument pas une maladie cardiaque. Ça n'a rien à voir. Une fois qu'on a développé la polio, malheureusement, il peut rester des paralysies. Mais c'est terminé, on risque rien pour le cœur.
Ah ben justement, Brigitte Bonin et Michel Dive peuvent témoigner parce que leurs associations, elles président toutes les deux des associations polio et post-polio. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Michel Dive ou Brigitte Bonin, l'une ou l'autre?
Oui, le syndrome post-polio, c'est une aggravation des séquelles initiales. C'est une aggravation qui intervient 20-30 ans après l'attaque initiale, donc, et qui est irréversible. Elle peut se produire soit au niveau des jambes, des bras, même au niveau des membres qui n'étaient pas attaqués initialement. Et c'est sa conséquence directe. Que le taux de handicap augmente, que nous avons de plus en plus de difficultés au niveau de la mobilité et parfois aussi au niveau des voies respiratoires.
Et Brigitte Bonin, merci beaucoup Michel Dive en Belgique donc pour ces informations. Brigitte Bonin à Lille, vous allez pouvoir répondre directement à Fatima qui est à Saint-Louis au Sénégal mais qu'on n'arrive pas à joindre là pour l'instant au téléphone. Mais je pose sa question parce qu'elle nous l'a envoyée sur le site mail également. Peut-on guérir de la polio? Existe-t-il des prothèses pour les pieds et jusqu'à quel âge peut-on attraper la polio?
En l'absence de vaccin, la polio, on peut l'attraper à tout âge. Nous, on a des personnes à l'association qui l'ont eu à 20 ans, qui l'ont eu. Et si on se réfère au président Roosevelt, il l'a attrapé très tardivement. Donc, en l'absence de vaccin et de couverture vaccinale, on n'est pas à l'abri, quel que soit l'âge. Ensuite, par rapport à la question sur
les prothèses.
Une orthèse, dans ce cas-là, il faut qu'elle consulte un médecin spécialisé, donc un médecin de médecine physique et de réadaptation, et qui fera le bilan de ses séquelles et qui pourra lui proposer éventuellement une prise en charge.
Alors, pendant tout à l'heure la pause musicale, le professeur Alain Yannick me disait il faut insister, il n'y a pas que les enfants qui sont concernés par ces campagnes de vaccination, parce que les adultes aussi, sous forme de rappel.
Oui, alors le rappel, on le fait plus beaucoup et sans doute pas assez dans les pays dits développés, en effet. Et il faut au moins inciter très fortement les adultes qui voyagent à vérifier, à se faire revacciner, hein, car la vaccination a une durée qui peut être toute la vie, mais qui n'est pas toujours toute la vie.
Mais mis à part donc, ceux qui voyagent dans les pays en zone rurale, etc., dans les pays africains, asiatiques, aussi.
Partout dans les pays où on est à proximité d'endémie, il faut entretenir la vaccination. Ça, c'est absolument certain. Et puis, dans les pays européens, par exemple, ou aux États-Unis, c'est essentiellement recommandé pour ceux qui voyagent, quoi. En local, le risque est vraiment infinitésimal, puisque le virus circule plus, quoi.
Merci beaucoup. Les bonnes choses ont une fin. Priorité santé, c'est fini. Merci à vous pour votre brillante expertise. Professeur Alain Yelnik, chef du service de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital Fernand Vidal à Paris. Au docteur Deo Chimirimana, conseiller régional Afrique de l'Ouest à l'Organisation mondiale de la santé pour les maladies évitables par la vaccination. À Brigitte Bonin et également à Michel Dive, corrélation, hein, présidente du GLIP pour Brigitte Bonin, groupe de liaison et d'information post-polio en France, et Michel Dive, la même chose mais en Belgique et qui intervient également au Cameroun. Et puis Sacha Grondeau, journaliste au magazine en ligne reggae.fr, avec une petite information supplémentaire.
Pour terminer sur une note de joie, je vous propose de retrouver les Israel Vibration en live pour voir qu'on peut continuer à vivre et à chanter avec la polio sur reggae.fr. Les vidéos sont en ligne.
Voilà, deux vidéos donc sur reggae.fr. Un grand merci à toute l'équipe. François Porcheron, à qui nous devons la réalisation de l'émission. Merci à Juliette Gerbrand pour le choix des invités. Merci à Véronique Fournier et à Marie, notre stagiaire de Chic et de Choc, qui m'a aidé à préparer cette émission. À la technique, aujourd'hui, Nicolas Doro et Alexis Levavasseur. Lundi, c'est la voix chaude de Claire Hédon que vous retrouverez dans un Priorité Santé consacré au bonheur. Au les cœurs, Claire attend vos questions, vos témoignages au 01 56 40 18 22 ou sur le site priorité.santé@rfi.fr. Portez-vous bien, salut à tous, tout de suite un nouveau journal d'information sur RFI.
Vous souhaitez réécouter Priorité Santé ? Rendez-vous sur notre site internet www.rfi.fr.